Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. N'est finalement qu'en septembre que la ministre de la Santé Agnès Buzyn va présenter sa réforme de l'hôpital pour tenter d'apaiser des tensions restées sans réponse depuis des mois en France. Les autorités sanitaires indiquent déjà que ces changements à venir vont s'appuyer sur une série de leviers, notamment la pertinence des soins, la qualité de vie des professionnels de santé et l'organisation territoriale de ces soins. Eh bien, ces trois priorités, on les retrouve au cœur de la philosophie des maisons de santé, des structures pluridisciplinaires où travaillent médecins et praticiens selon un projet élaboré en commun. Des regroupements de compétences intégrés au cœur de la communauté, des espaces dédiés à la coordination et à l'accessibilité aux soins dans un souci d'adaptation au contexte local. Ces maisons de santé se multiplient. On en dénombrait plus de 900 fin janvier, d'après le dernier décompte effectué par la Direction Générale de l'Offre de Soins. 910 précisément, 700 autres en projet. Alors comment expliquer un tel essor? Qui sont les professionnels à s'engager sur cette voie? La viabilité financière de ces structures est-elle garantie? Et plus globalement, cette offre de soins au plus près de la population, construite sur un partage de compétences, constitue-t-elle une solution au malaise que traverse notre système de santé publique? Des questions que nous allons poser et illustrer à travers un exemple, celui de l'une de ces maisons de santé, celle qui a vu le jour il y a quelques mois de cela, dans le quartier populaire parisien de Ménilmontant. Une maison de santé, pour qui et pourquoi faire? Avec nous en studio, trois acteurs, trois membres de l'équipe de praticiens de la maison de santé pluriprofessionnelle de Ménilmontant à Paris. Géraldine Barbier-Lescure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédicure-podologue, enseignante à l'Institut National de Podologie. Estelle Grégoire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière. Et docteur Antonin Mathieu, bonjour. Vous êtes médecin généraliste. Bonjour,
bonjour à vous.
En fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Et bien sûr, si vous avez des questions à poser, notre page Facebook, notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Et donc ces trois praticiens qui travaillent dans cette toute nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle de Ménilmontant, 20e arrondissement de Paris, docteur Antonin Mathieu, l'équipe est constituée de combien de personnes au total?
Alors, on est à 8, il y a deux infirmières dont Estelle, une podologue Géraldine, un kiné, une sage-femme et on est trois médecins généralistes.
Alors, équipe plutôt jeune, très féminine.
Oui, je suis le seul homme, avec Christophe, le kiné.
C'était un choix, cet âge, ou c'est une tendance simplement vers ce type de structure d'avoir des professionnels assez jeunes?
C'est une des particularités de notre structure. En fait, on est des jeunes professionnels. On a tous jamais été, aucun d'entre nous n'a été installé, sauf Géraldine un tout petit peu. Et c'est un peu un projet utopique. Chacun a un peu rédigé son exercice idéal. Et puis, on a mis ça en commun. On a commenté les points communs, les différences. Et on s'est lancé ensemble.
Alors, pour bien expliquer la différence aux auditeurs de Priorité Santé, quand on a parlé de ces maisons de santé en Afrique, certains auditeurs nous ont dit « Nous aussi, on a des maisons de santé. » Ils confondaient peut-être avec des centres de soins. C'est pas tout à fait la même chose. Docteur Antonin Mathieu, comment distinguer cette maison de santé d'un cabinet médical ou même d'un dispensaire?
Alors, ça change par la rémunération du professionnel de santé qui y travaille, à savoir que nous, on est payé à l'acte. À terme, on aura peut-être une toute petite partie pour payer par la Sécu à la capitation pour payer nos réunions. Mais pour l'instant, on est exclusivement payé à l'acte, alors qu'en centre de santé, les médecins et les professionnels qui y travaillent sont des médecins salariés. C'est ça qui change.
Oui, mais alors je vais vous poser la question. Dans ce cas-là, c'est quoi la différence avec un cabinet de médecin?
Un cabinet de médecin, c'est une colocation de professionnels de santé. Alors que nous, on partage un projet de santé, c'est-à-dire qu'on coordonne nos exercices. C'est tout sauf de la colocation. En fait, on travaille vraiment ensemble. On a une salle qui nous permet de faire ça.
Alors, tout à l'heure, on va découvrir cette salle. Alors, au sein de l'équipe, il y a vous, podologue, pédicure, Géraldine Barbier-Lescure. Est-ce qu'aujourd'hui, votre maison de santé, telle qu'elle existe, ça fait pas très longtemps, quelques mois à peine, est-ce qu'elle ressemble à ce que vous imaginiez au départ?
Oui, tout à fait. Elle ressemble à ce qu'on imaginait au départ. C'est quand même un projet qu'on mène depuis presque 3 ans. Donc, on a eu le temps de le réfléchir et presque maintenant d'y aboutir. Donc oui, tout à fait, elle répond à nos attentes dans un vrai exercice pluriprofessionnel, céder des compétences des uns des autres, même pendant les consultations, avoir ce plaisir d'aller chercher le confrère pour lui demander sur son avis sur des cas un peu difficiles ou plus compliqués. Donc oui, ça répond et c'est un vrai plaisir.
Alors, il n'y a pas de strict cadre formellement, mais il y a quelque chose de principal quand on crée ce genre de maison de santé, c'est le projet initial, projet élaboré en commun, Estelle Grégoire. Comment vous aviez défini justement ce projet après, j'imagine, des consultations?
En fait, on en a beaucoup discuté tous ensemble. On a vu un petit peu l'élément qu'il y avait dans le quartier au niveau médical. Et puis, nous, ce qui nous intéressait, enfin, les grands axes qui nous intéressaient. Et
chacun est venu avec son paquet.
Chacun est venu avec son paquet. On en a beaucoup discuté. Et puis, on a rédigé peu à peu le projet de santé comme ça.
Et justement,
entre nos attentes et les attentes du quartier.
Certaines de vos attentes personnelles ont été déçues, mais sans non plus. Est-ce que vous aviez imaginé des choses qui finalement n'ont pas été retenu dans le projet, ou est-ce que les apports des autres vous ont convaincu? Comment ça s'est passé, cet échange de points de vue?
Alors, en fait, chacun donne son avis, chacun donne ses idées, et l'idée est que personne ne soit frustré. Donc, il n'y a pas, on ne vote pas pour une idée, on a un consensus, enfin, il faut que tout le monde soit d'accord, et c'est ce qui s'est passé, donc ce qui a permis que personne ne soit frustré, et que toutes les idées soient entendues.
Ça veut dire qu'au départ, docteur Antonin Mathieu, il y avait une convergence de points de vue entre chacun d'entre vous. Vous étiez en phase, forcément, quand on se lance avec l'investissement aussi bien personnel que financier, quand on se lance dans ce type de projet, il fallait que vous ayez une cible, un objectif commun.
Ouais, effectivement, c'est difficile de trouver des professionnels. Là, on a la chance de s'être trouvés. On a un point commun quand même, qui est que... d'avoir remarqué que c'est pas en augmentant le nombre de nos consultations qu'on améliorera la santé des gens qui sont dans notre quartier, mais plutôt en menant des actions de prévention et de santé publique. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage tous dans l'équipe, et c'est ce qui a permis de monter notre projet de santé. Pour ça que ça collait pas forcément avec tous les professionnels, mais chaque équipe de maison de santé a son projet de santé à elle. Donc une autre équipe pour avoir un projet complètement différent d'une autre.
Et vous, votre projet, s'il faut retenir quelques mots, c'est quoi?
Alors, c'est qu'on est une maison de santé pluriprofessionnelle, donc on se fait des réunions de coordination entre nous et avec les réseaux de santé et avec les professionnels du quartier, et qu'on va plus loin, qu'on monte des actions de santé publique, par exemple une école d'éducation thérapeutique, des groupes d'auto-formation, des actions de santé communautaire, ce genre de choses.
Avec des pathologies ciblées particulièrement?
Par exemple, pour l'éducation thérapeutique, on a envisagé une école du dos, une école de l'asthme, une école du diabète, par exemple. Pour l'action de santé communautaire, là, on a débuté une action avec un collectif de migrants qui est actif dans notre quartier. Puis on envisage des réunions d'auto-formation sur les maladies courantes, leur évolution habituelle, sur la nécessité ou pas de consulter, sur l'automédication, le développement normal de l'enfant, ce genre de choses.
Beaucoup d'informations. Alors, avant d'entamer la petite visite guidée de cette maison, puisqu'on s'est rendu sur place, une question qui s'adresse à vous, Estelle Grégoire. Pourquoi choisir d'exercer comme infirmière dans cette structure très particulière et pas comme infirmière libérale ou même infirmière hospitalière?
Eh bien, parce que j'avais envie de travailler en groupe. Pour moi, c'était important de pouvoir m'aider de différentes disciplines de santé, de pas être seule, parce que c'est quand même très rassurant d'être à plusieurs, et beaucoup plus enrichissant au niveau du travail.
Oui, mais on pouvait retrouver ça à l'hôpital, alors pourquoi pas à l'hôpital?
On aurait pu retrouver ça à l'hôpital, mais après l'idée de construire un projet de santé tous ensemble était beaucoup plus intéressant que d'arriver dans quelque chose qui est déjà formé, pour moi.
Alors quand on se lance dans ce genre d'aventure, on a des rêves, on a des idées, mais il faut aussi de l'argent. Comment ce projet a-t-il été financé, docteur Antonin Mathieu?
Alors, ce projet a été financé par une subvention de l'ARS, par une subvention municipale et de la région Île-de-France. Ça a permis de payer une partie des travaux, et puis chacun d'entre nous est endetté, plus que ce qu'on voudrait, pour payer les travaux. Et au quotidien, par contre, on fonctionne seulement avec nos fonctionnements, les revenus de nos consultations. À terme, on va demander un soutien de la Sécurité sociale pour payer une partie des réunions qu'on va faire. Donc c'est comme ça que ça tourne.
Parce que ces aides publiques, elles étaient brutes au départ. Après, elles sont pas, vous en percevez pas les mois, les années qui suivent. C'était une aide de départ,
effectivement,
uniquement, un investissement.
Nous a permis, exactement.
Alors visite des lieux. Hein, cette maison se décompose en fait en deux espaces situés au rez-de-chaussée d'un grand immeuble. Et c'est vous, hein, docteur Antonin Mathieu, qui allez nous servir de guide.
On est au 24 rue des Plâtrières. On est au pied d'une tour de 14 étages. On est dans la cité des Amandiers, dans le 20e arrondissement de Paris, devant la maison de santé Ménilmontant. Là, on va vous montrer le local de Géraldine, qui est podologue, et puis deux autres bureaux de consultation. On n'a qu'à commencer par ici.
Mon atelier en fait, de confection pour les semelles orthopédiques, qui est une obligation aussi légale d'avoir un atelier séparé. Il y a, on va dire, les matières premières pour confectionner les semelles orthopédiques, parce que nous les faisons nous-mêmes, on les façonne à la main et avec une machine. Et on travaille avec différents types de matières, du liège, de la mousse, voilà.
Donc on continue la visite.
Là, c'est le cabinet de Géraldine. Elle a tout le matériel qui lui permet de faire ses soins. Je pense que tu peux commenter mieux que moi ton fauteuil.
C'est vrai qu'on n'est pas non plus très coutumier du fauteuil de podologue. C'est quoi exactement la possibilité que ça offre par rapport à un autre matériau ?
En fait, surtout la possibilité, sur un soin de pédicurie, de pouvoir en fait travailler sur des zones un peu plus basses telles que le talon, d'avoir en fait ces zones-là à hauteur des yeux et donc de pouvoir monter le patient, que le praticien puisse être bien installé et pas courbé ou penché dans les soins qu'il va prodiguer au patient. Il y a également en fait une plateforme podométrique qui aide en fait au diagnostic des troubles morphostatiques au niveau du patient. Là, plus dans le cadre, comme on disait tout à l'heure, des différents bilans podologiques.
Donc on continue au bout du couloir.
Là, on a un autre bureau de consultation, celui qui est utilisé plus souvent par Yasmine, qui est sage-femme ici. Donc, il est pas mal son fauteuil. Tous nos fauteuils, en fait, ils peuvent être mis comme ça et comme ça. Ça permet de pouvoir faire des examens gynéco en regardant la patiente. D'ailleurs, on ne pratique pas d'examen gynéco chez des gens qu'on ne connaît pas, on prend le temps. Et c'est certainement pas la clé ou l'élément central du suivi des femmes. Hein. Donc on a les équipements, il n'y a pas d'étrier là par exemple. On en a derrière, ça veut dire que dans certains cas, vraiment si on a besoin, on peut les utiliser, mais c'est absolument pas systématique. On peut faire des examens sur le flanc, etc., comme les femmes se sentent bien, quoi. Là, vous voyez, le bureau, il est en barrage, donc il est installé entre le patient et le thérapeute, mais on peut le mettre aussi collé contre le mur. Là, il n'y a plus cette barrière, ça permet d'avoir quelque chose de plus informel. Et puis le cadre, donc l'environnement, là où on est, ça influence énormément ce qui peut se dire. J'ai peur que, je ne sais pas si Christophe est avec un patient, j'ai juste jeté un petit coup d'œil pour ne pas le déranger s'il vient en consultation. Je voulais juste voir si tu étais en consultation ou pas. Ok, ça marche. Je pense qu'on va s'abstenir de visiter tout le monde. Je vais vous montrer le deuxième local. Est-ce qu'elle est en consultation, Charlène ?
Non,
je vais vérifier. Est-ce qu'on peut... Ouais, c'est parfait, elle est en consultation. Est-ce que je peux présenter ton bureau ?
Oui, alors...
Donc, un espace plutôt de consultation d'examen avec un lit adapté à la gynécologie. Tout le matériel exactement pour examiner, un stéthoscope, les oreilles, etc. Et puis un espace plus relationnel où le patient est assis en face du médecin avec l'ordinateur, hein, qui est très très utile. Tout est informatisé ici.
Là, on a un deuxième bureau et un troisième. Ils sont tous sur le même modèle, mm-hmm, avec les mêmes outils de consultation. Ça nous permet, nous, de tourner de bureau facilement, de recevoir des étudiants sans qu'ils soient perdus en passant de l'un à l'autre. On va aller à côté. Je vais vous montrer le cœur de la maison de santé. Ici, on est dans la salle de coordination. C'est là qu'on se coordonne entre nous. Donc, on fait des réunions pluriprofessionnelles, on rédige nos protocoles. C'est là aussi qu'on reçoit les professionnels du quartier pour pouvoir nous coordonner. C'est là qu'on anime nos groupes d'information sur la santé, c'est là qu'on fait aussi les groupes de santé communautaire et où auront lieu l'école d'éducation thérapeutique et ses groupes.
Ça veut dire que là, les chaises qui sont empilées, vous créez un cercle et les gens se mettent à parler entre eux autour du cercle.
C'est exactement ça, et puis ça change aussi l'approche, le fait d'avoir plusieurs personnes. La relation avec le professionnel n'est pas du tout le même, il y a une dynamique autre. C'est pas forcément le professionnel qui est en référent expert, mais le patient qui est en expert de son vécu. Et donc, on a essayé de s'adapter à ça et de créer des locaux justement qui permettent ce positionnement.
Alors, on ressent une franche satisfaction quand vous décrivez ces lieux. C'est votre maison, docteur Antonin Mathieu, et la vôtre également, mesdames. Est-ce que cette maison, elle correspond au plan, à ce que vous aviez espéré? D'ailleurs, comment vous avez fait ces plans tous ensemble avec l'architecte?
Oui, on est allé lire beaucoup ce qui s'est faisait, on est allé visiter, on a dessiné ensemble, on a commenté une maquette en déplaçant des murs. C'est un vrai projet de rêve et là on peut dire qu'on n'est pas peu fiers de l'avoir ouvrir.
Géraldine Barbier, Lescure, ces acteurs, est-ce que vous connaissiez avant de vous mettre tous ensemble ou vous êtes un peu agglomérés de façon à l'aventure comme ça?
Bah oui, effectivement, on s'est un peu, pour reprendre vos propos, agglomérés à l'aventure. Et fait, c'est un peu l'histoire de notre maison, c'est qu'on a eu aussi la chance de se rencontrer. Enfin, il y avait un noyau de départ et d'autres professionnels, enfin des membres de l'équipe se sont rajoutés au fur et à mesure. Et on a eu la chance de bien s'entendre et une chance de partager nos points de vue professionnels.
Alors justement, le choix des disciplines, tout à l'heure vous le disiez, trois médecins généralistes, sage-femme, podologue, deux infirmières, un kinésithérapeute. Comment s'est fait ce choix, Géraldine Barbier-Lescure?
Alors, peut-être parler un peu de mon histoire professionnelle, en fait. C'était d'abord un noyau le plus ancien constitué de médecins généralistes et qui recherchait, en fait, des professions paramédicales pour accompagner le projet. Et en fait, moi, j'avais un vrai intérêt, un vrai besoin de travailler, comme Estelle le disait tout à l'heure, avec d'autres professionnels de santé, partager ma pratique. Et en fait, je suis allée un petit peu au culot. J'ai répondu à une annonce. La maison de santé cherchait des infirmiers et en fait, j'ai répondu à cette annonce en disant je ne suis pas infirmier mais podologue. Donc ça a été un peu un hasard, on va dire. On sent en fait dans un exercice professionnel quand même des professions paramédicales qui nous parlent. Voilà, un de nos projets de santé aussi c'est la santé de la femme. Donc voilà, on avait envie d'avoir une sage-femme qui puisse rejoindre l'équipe. Et puis également, un kiné, un masseur kinésithérapeute, on avait, dans son exercice, ça correspondait bien dans les projets que nous avions établis.
Alors, on a vu ces différentes pièces, bien sûr, les cabinets de consultation, et puis cette pièce, ce lieu de partage, d'écoute, de réunion, qui symbolise un petit peu la mise en commun de tout ça, Estelle Grégoire, c'est essentiel, cette dimension collective?
Ah oui, complètement. Il faut qu'on ait un endroit pour se retrouver, pour discuter de ce qu'on fait, pour discuter des cas complexes et c'est un peu tout l'intérêt de travailler en groupe.
Est-ce qu'il y a des consultations conjointes, docteur Antonin Mathieu? Est-ce que par exemple vous recevez quelqu'un et puis là c'est pas forcément où j'ai besoin simplement d'un conseil, d'un regard différent, vous allez toquer à la porte du voisin, comment ça se passe?
Oui, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que quand je suis en difficulté par exemple sur un pansement, sur une évolution et que j'ai besoin de l'avis d'Estelle, c'est trop facile en fait. Je traverse le couloir et puis je vais voir Estelle, écoute, tu voudrais pas acheter un petit coup d'œil? Là je suis un peu embêté. Puis la même chose avec Géraldine, c'est vraiment sacrément sympa. Et puis il nous arrive même parfois de planifier des consultations en commun avec des patients plus complexes qui nécessitent de la coordination. Dans ce cas-là, on bloque tous les deux notre emploi du temps. On prend une trois quarts d'heure, une heure avec un patient et ça permet de faire le tour des choses. Plutôt qu'un patient qui ait à répéter plusieurs fois la même chose à des professionnels différents, bah là, on est plusieurs autour de la prise en charge, on entend la même chose au même moment, on prend les décisions ensemble et on les réévalue si besoin ensemble.
Alors, Géraldine Barbier-Lescure, réunion entre professionnels de santé, justement, cette mutualisation formelle, ça se passe à quelle fréquence? C'est préétabli ou c'est un petit peu selon les jours?
Alors, on a établi un calendrier, en fait, de réunions formelles, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, on peut aussi, sur nos pauses déjeuner, parfois rediscuter de patients qui nous ont posé problème. Donc, il y a une partie formelle et une partie informelle. Je pense que tous les jours, on vient à discuter de nos patients et de nos projets. Et, voilà.
Une mutualisation qui se retrouve aussi, docteur Antonin Mathieu, sur le plan de l'informatique, de la mise en commun de certaines informations.
Effectivement, on a un dossier partagé qui nous permet d'avoir les mêmes informations tous ensemble. Par exemple, quand Estelle voit une plaie à domicile, un patient qui présente une plaie à domicile, elle peut le photographier, ça apparaît automatiquement au même moment sur mon écran. Ça permet, si jamais elle m'appelle pour avoir un avis, une discussion, qu'on puisse avoir les mêmes informations. Et ça permet, par exemple, quand je vois un patient, de dire « Ah, bah voilà, vous avez rencontré Géraldine il n'y a pas très longtemps, on va regarder comment ça a évolué, etc. » Ça permet vraiment une soit en coordination, quoi. C'est un outil capital.
Et ça pose aucun problème au niveau du respect du secret de la consultation ou ce serment d'Hippocrate? Comment vous faites justement pour concilier la mise en commun d'informations? Peut-être que je peux faire un tour de table par rapport à cette question. Ouais. La mise en commun d'informations et puis l'utilité de mettre en commun, mais certaines personnes ne veulent pas que ce qui est dit sorte des murs stricts du cabinet.
Déjà, le plus important à dire, c'est que le secret médical, c'est une des choses les plus importantes pour permettre de soigner quelqu'un. Donc on s'organise pour essayer de pouvoir le respecter. On partage pas toutes les informations. On peut partager des antécédents importants, on peut partager l'existence d'une consultation. Mais par exemple, quand quelqu'un évoque un traumatisme personnel important, des traumas psychiques dans sa famille ou des choses comme ça, c'est pas forcément quelque chose qui est à partager. Et donc on peut soit créer une consultation privée, soit le noter à mot couvert dans les antécédents, ou alors ce qu'on fait le plus souvent, c'est que on masque cette consultation. Résultat, les collègues peuvent voir si vraiment je veux mouiller, je peux dire que il y a un trauma psychique, mais de plus large possible. Et encore, avant même de dire ça, on en parle vraiment avec le patient.
Ça veut dire que simplement pour comprendre au niveau formel sur le système informatique, c'est prévu pour garder la confidentialité.
À chaque fois, on peut avoir le périmètre. Et puis surtout, on demande l'avis du patient. C'est-à-dire que le patient ne partage que ce qu'il veut avec qui il veut. Pour accéder au patient, il faut lui demander « Est-ce que je peux accéder à votre dossier qu'a rempli l'autre professionnel ?» Oui ou non, sinon on peut vraiment se recréer un lien avec un dossier individuel.
Estelle Grégoire, c'est fréquent justement cette nécessité de confidentialité, vous, en consultation d'infirmière?
En fait, à partir du moment où on explique aux patients l'intérêt de partager le dossier, en général, ils sont d'accord, mais il faut qu'il y en ait intérêt.
Estelle Grégoire, docteur Antonin Mathieu, Géraldine Barbier-Lescure, vous restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants.
Priorité santé sur RFI.
Et on se retrouve toujours pour parler des maisons de santé, ces regroupements de professionnels pour améliorer l'accès aux soins, le suivi des maladies chroniques, la prise en charge multidisciplinaire. On retrouve nos trois invités qui travaillent dans une seule et même structure. La maison de santé pluriprofessionnelle de Ménilmontant à Paris, c'est dans le 20e arrondissement. Géraldine Barbier-Lescure, pédicure podologue, enseignante à l'Institut National de Podologie. Estelle Grégoire, infirmière. Et vous, docteur Antonin Mathieu, médecin généraliste conventionné secteur 1. Alors, c'est en fait le cas pour les trois médecins de votre maison de santé. Et c'est une précision importante. Vous allez nous dire pourquoi.
Secteur 1, ça signifie qu'on ne prend pas de dépassement d'honoraires. C'est capital parce qu'en fait, on a beaucoup de patients qui renoncent aux soins pour des raisons financières. C'est quasiment 34% des patients qui renoncent aux soins qui évoquent ce motif. Et on pourrait dire que payer nuit gravement à la santé, c'est le titre d'une étude scientifique qui a été publiée sur le sujet, qui montre qu'il y a un renoncement aux soins qui est très important.
Et c'est quelque chose que vous constatez, vous, au quotidien, lors des consultations, que on vous dit « j'ai arrêté de me soigner parce que c'était trop cher, je peux revenir parce que chez vous c'est moins cher ».
C'est quelque chose qui est assez honteux pour les gens, parce que la santé c'est toujours justement une priorité. Et quand on arrive à renoncer à des soins, c'est qu'on a renoncé à beaucoup d'autres choses avant. Je pense à des loisirs, à des vacances, à des accès à la culture, à des sorties. Et quand on en arrive à renoncer à la santé, c'est vraiment qu'on n'a pas le choix. Et c'est pas quelque chose qu'on met volontiers en avant. Souvent, on s'en rend compte de manière indirecte. Par exemple, quand des vaccins ne sont pas réalisés, quand des examens complémentaires ne sont pas réalisés. En fait, on n'imagine pas, mais même lâcher 30 euros ou 50 euros pour un examen complémentaire, pour certaines personnes, c'est extrêmement cher.
Alors, quand un jeune médecin, quand une infirmière se lance dans un projet comme celui-ci, hein, une maison de santé, est-ce que ça change beaucoup les choses au niveau de la rémunération? Je commence avec vous, Estelle Grégoire. Est-ce que infirmière libérale, infirmière en maison de santé, c'est un grand écart par rapport au niveau de la rémunération ou pas vraiment?
Alors là, c'est le début, donc je peux pas vraiment vous dire.
Peut-être un ordre d'idée par rapport à certaines de vos consoeurs.
Oui, ça change. Évidemment que ça change.
Ouais, ça veut dire qu'on gagne moins.
On gagne plus.
Vous gagnez plus, vous, en maison de santé, et je parlais pas de l'hôpital, infirmière libérale.
C'est pareil, en fait.
C'est pareil.
Parce qu'on est infirmière, moi, je suis infirmière libérale, c'est juste que j'ai décidé de m'installer avec d'autres professionnels.
Mais ça change pas quelque chose? Par exemple, tout à l'heure, on disait au niveau des cadences, peut-être que vous en faites moins. Peut-être que vous prenez plus le temps et du coup, vous avez moins d'actes. Donc, dans cette histoire de rentabilité à l'acte, peut-être qu'il y a une différence par rapport à ça?
Sûrement que d'autres professionnels installés. C'est sûr que nos consultations sont souvent plus longues, qu'on a un gros temps de coordination. Donc, c'est des temps où on ne voit pas de patients. Donc, c'est fort probable.
Géraldine Barbier-Lescure, s'installer en maison de santé par rapport à un cabinet en ville, ça change quelque chose au niveau de la rémunération?
Non, ça ne change pas au niveau de la rémunération. Les charges sont à peu près équivalentes sur un cabinet libéral.
Et vous, docteur Antonin Mathieu, ça change beaucoup de choses ou pas?
On gagne un tout petit peu moins parce que les temps de coordination ne sont pas financés pour l'instant et que les actions de santé publique, pour la plupart, ne sont pas financées. Donc, c'est des choses qu'on fait bénévolement. Mais on s'y retrouve parce que ça donne du sens à notre métier. Et ça, on peut dire que là-dedans, même si on y perd au niveau financier, on y gagne en confort de travail. Et ça vaut le coup, vraiment.
Et vous me permettez de faire le lien, justement. Métier d'infirmière, on parle très souvent des crises qui agitent ce métier. L'amour, l'affection qu'a le public, qu'ont les usagers pour les infirmières et le manque de considération en retour de la part de, on va dire pas forcément de l'administration, mais des pouvoirs publics en termes de rémunération et de cadence de travail. Est-ce que justement ce travail dans cette maison de santé permet d'éviter cette tension que ressentent tellement d'infirmières?
Oui, parce que déjà, il n'y a pas de hiérarchie et je pense que ça pèse beaucoup. Et puis, je trouve qu'on est beaucoup plus valorisé dans un exercice.
Quand vous dites qu'il n'y a pas d'hiérarchie, c'est une réalité parce qu'on pourrait dire ça fait un peu projet utopique, des doux rêveurs, mais c'est vraiment une réalité.
Vraiment
le médecin
réalité.
Ne vous demande jamais de faire un acte.
Il peut nous demander de faire un acte, mais ce
mais
n'est
pas dans
notre
un rapport
hiérarchique.
Non, absolument.
On est vraiment tous égaux.
Alors, on a parlé des lieux, des métiers. Maintenant, pour ce qui est des personnes que vous prenez en charge, c'est quand même le cœur du métier dans ce quartier de Ménilmontant. Docteur Antonin Mathieu, comment décrire la population que vous soignez?
C'est une population qui vient du quartier, essentiellement, une population plutôt jeune. On a beaucoup de souffrances professionnelles, on a une partie de population qui a migré, on a aussi beaucoup de femmes, beaucoup d'adolescents également, quelques personnes vieillissantes et qui deviennent dépendantes. Donc c'est une population très variée. Voilà.
Vous avez des familles, il n'y a pas de pédiatre, hein, on l'a entendu. Pour autant, des enfants sont soignés dans votre maison de santé.
Oui, c'est la spécificité de la médecine générale, c'est-à-dire qu'on peut suivre toutes les personnes avec une attention particulière au vécu des symptômes, à la dimension familiale, à la dimension communautaire. Donc c'est ça qui fait vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir suivre une grand-mère, des parents, des enfants, suivre des grossesses, partager des événements de vie, c'est ça qui fait vraiment la qualité du travail.
Alors, trois médecins généralistes, pas de médecin spécialiste, c'est un choix ou c'est parce que ça s'est fait comme ça? Ou c'est encore, là encore, une histoire de conventionnement et de rapport financier?
On aurait bien voulu recruter des spécialistes d'organes. En tant que médecin généraliste, on est spécialiste, mais pas d'organes.
Par exemple, les pathologues, cardiologues?
Et effectivement, mais en fait, c'est qu'on a... Nous, on est tous en secteur 1, on ne pratique pas de dépassement d'honoraires. Et c'est très compliqué de recruter ces professionnels en secteur 1 sans dépassement d'honoraires.
Alors, lorsque je vous ai rendu visite la semaine dernière, j'ai rencontré l'un de vos patients, docteur Antonin Mathieu, une trentaine d'années à peine, originaire d'Afrique de l'Ouest et sans papier. Il a poussé la porte de votre maison de santé il y a quelques mois.
Je ne connaissais pas l'hôpital, donc j'étais arrêté devant la porte. Donc c'est la voisine, elle m'a vu et elle m'a dit qu'il y a un médecin ici. Comme je ne connais personne, je veux venir voir ici ce qu'il peut faire pour moi. Donc je suis rentré, ma mère est rentrée, on a expliqué le problème. Il nous a dit qu'il peut nous aider. Donc il dit que il va nous donner une lettre, qu'on va partir à l'hôpital général. Arrivé là-bas, on a donné la lettre, il va nous aider. Donc on est parti, ça a été génial, tu vois. Quand je suis arrivé à l'hôpital aussi, ça a été bien passé là-bas. Donc arrivé maintenant, je ne peux pas partir sans lui dire merci et tout, parce que c'est grâce à lui, aujourd'hui je suis dans bonne santé.
Qu'est-ce qu'il y a différent, peut-être de mieux ici, par rapport à ce que vous rencontrez quand vous allez vous faire soigner à l'hôpital?
Quand moi je vivais à l'hôpital, du coup on me fait assis, on dit prends, je vais là-bas, lui, l'autre me dit va là-bas, ils ne s'occupent pas bien de moi, tu vois. Mais regarde comme ça, il dit bon, ça va, vas-y, je viens encore, c'est la même chose. Je n'avais pas de documents, tu vois, je n'avais rien. Même si l'hôpital m'a donné, mais c'est grâce à lui que j'ai eu ça. Voilà, c'est pas l'hôpital.
Donc vous êtes sans papier, mais ici, vous pouvez être bien soigné quand même. C'est pas parce que vous n'avez pas de papier que vous n'avez pas le droit à la médecine.
Ah oui, c'est vrai. C'est pas parce que je n'ai pas de papier. Moi, quand je partais à l'hôpital, ma mère, elle avait peur. Moi aussi, j'avais peur. J'ai dit, mais je n'ai pas de papier. Et si j'arrive là-bas, ils vont faire quoi? Ils vont pas nous attraper parce qu'on avait la lettre, on n'a pas fait de crime.
L'un de vos patients, docteur Antonin Mathieu, on perçoit bien la reconnaissance hein, dans sa voix, dans son témoignage. Quel est le retour justement de la part de ces patients? Est-ce que certains dans le quartier justement qui n'avaient pas de médecin attitré se retrouvent soulagés? Est-ce qu'il y avait déjà un vrai manque par rapport aux populations, à cette communauté du 20e autour de vous?
Oui, on était extrêmement attendus. On a eu beaucoup de patients dès notre ouverture. En fait, il y a beaucoup de patients qui cherchent des médecins traitants sans réussir à les trouver. C'est assez fréquent qu'on voit des patients arriver après qu'ils aient essuyé 5, 6, 7, 8 refus de médecins généralistes.
Des refus pourquoi ?
Parce que les médecins généralistes sont saturés, ils sont insuffisamment nombreux pour pouvoir absorber toutes les demandes des patients.
Alors, cette population, est-ce qu'elle présente des particularités au niveau des conditions de prise en charge et de couverture santé, docteur Antonin Mathieu? Est-ce que ça change justement ce rapport à la médecine?
Oui, ça force à être rationnel dans les prescriptions d'examen, à être très attentif à la compréhension qu'a la personne de sa situation de santé, aux priorités qu'elle y met. Et puis, effectivement, là, on reçoit régulièrement des personnes qui n'ont pas de couverture sociale, qu'on est obligé d'adresser au PASS hospitalière, c'est ce que décrit ce patient, qui fonctionne plus ou moins bien, qui manque de moyens réellement pour travailler correctement, ce qui fait que régulièrement on est obligé de revoir ces patients. Puis nous, on applique le serment d'Hippocrate à la lettre, c'est-à-dire quand quelqu'un peut vraiment pas payer, on lui fait pas payer. Mais on n'a pas, c'est pas notre vocation principale, c'est seulement en dépannage, en urgence. Ces prises en charge-là, par exemple, nous, quand on fait des ordonnances de médicaments, ils sont pas remboursés, alors que quand ces médicaments sont prescrits à la PASS, ils sont délivrés gratuitement. Donc c'est plus sur des erreurs d'orientation ou pour bien orienter des patients qu'ils passent par chez nous.
Mais malgré tout, la précarité de ces populations, elle peut pas avoir un impact sur la viabilité financière de votre projet. Vous iriez pas jusque-là?
Non, mais ça correspond parfois à 10% de nos revenus qu'on passe dans des consultations qu'on fait en acte gratuit. Parfois, certains jours, un peu plus. Et donc, on peut dire que ça ne fait pas une vraie menace économique sur notre viabilité, mais c'est un impact.
Alors, Estelle Grégoire, infirmière, est-ce que l'état de santé des personnes qui viennent en consultation dans cette maison de santé du 20e arrondissement, est-ce que l'état de ces personnes vous a surpris ou finalement c'est un tableau épidémiologique auquel vous vous attendiez?
Non, ça m'a pas particulièrement surpris. Après, comme le disait Antonin, on a de tout. C'est une population assez hétéroclite. On a des personnes assez jeunes, de 4 à 97 ans.
Et par rapport au réseau qui s'installe dans le quartier, Géraldine Barbier-Lescure, est-ce que vous travaillez avec d'autres lieux de santé? On a bien sûr évoqué l'hôpital, c'est une évidence. Par exemple, des laboratoires d'analyse, des pharmacies. Est-ce qu'il y a des interactions, justement, toujours dans ce noyau local?
Oui, il y a évidemment des interactions avec ce noyau local, mais aussi avec les réseaux sociaux actuels, et présents au niveau du 20e, notamment avec Estelle. On a pu intervenir dans une association qui s'appelle le Café des Seniors, où on a fait de la prévention vis-à-vis de l'été et des éventuelles canicules sur les patients majoritairement âgés du quartier. Donc oui, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux.
Et également également avec les pharmacies, par exemple? Est-ce que vous avez des endroits où vous savez que vos patients seront mieux reçus que d'autres? Des labos qui, selon vous, ont une approche qui correspond plus à votre philosophie? Parce qu'on ressent derrière votre façon de travailler une philosophie de la médecine, une philosophie de la vie aussi. Est-ce qu'il y a des lieux qui sont davantage en adéquation avec vous, on dirait, avec vos principes?
Alors, disons que ça fait à peu près 4 mois qu'on a ouvert la maison de santé, donc c'est encore ce recul-là, on ne l'a pas encore. Évidemment, au niveau des pharmacies et des laboratoires, c'est aussi la proximité géographique quand même. Et puis, effectivement, peut-être qu'on aura plus d'affinités dans le but de créer éventuellement un pôle de santé. Ce seront peut-être des structures qui viendront aussi à nous pour rejoindre nos projets.
Alors, ce projet, vous l'avez imaginé, vous l'avez financé ensemble. Est-ce que vous l'avez construit en réaction pour échapper à ce que vous considérez aujourd'hui comme des dérives de la médecine, ou est-ce que vous l'avez construit comme quelque chose de purement, on va dire, positif, et non pas pour fuir une réalité un petit peu douloureuse? Ça va être un tour de table justement sur ça, parce que c'est très personnel. Estelle Grégoire?
Un peu des deux. Moi, j'en avais marre de travailler à l'hôpital, parce que pour toutes les raisons, devoir aller très vite, avoir peu de temps, avoir le poids de la hiérarchie, et en même temps, j'avais un rêve de ce que j'imagine de la santé. Donc, c'est un peu des deux.
Et aujourd'hui, ce rêve, vous avez l'impression de le vivre, de l'accomplir?
Oui, complètement. Ouais.
Géraldine Barbier-Lescure, justement, réaction ou finalement, parce que vous aviez de l'expérience. Est-ce que vous avez embrassé quelque chose de nouveau, ou est-ce que c'est en fait la continuité de ce que vous aviez déjà entamé?
Non, j'ai embrassé quelque chose de nouveau. C'est un vrai... Dans mon expérience professionnelle, c'est souvent quelque chose qui me manquait, qui me faisait défaut. Et c'était une vraie volonté d'aller vers les autres professions et de pouvoir partager leurs compétences et les miennes. Et là, oui, c'est un vrai plaisir.
Le plus, c'est la mutualisation.
Réellement. Le plus, c'est la mutualisation. De pouvoir compter les uns sur les autres, c'est très agréable. Toujours le bénéfice du patient.
Et justement, c'est un rapport différent au patient qui s'installe, qui s'instaure?
Je pense, oui. Peut-être être beaucoup plus appuyé des uns des autres, mais aussi de faciliter, en fait, l'accès aux soins aux patients. Par exemple, avec Christophe, qui est le masseur kinésithérapeute, sur des pathologies que je peux rencontrer, où je vais me poser la question de savoir si des séances de kinésithérapie sont nécessaires, et bien là, je vais lui demander directement, et on va pouvoir échanger avec le patient. Le patient gagne du temps.
Même au besoin, il peut venir jeter un œil, voir exactement comment ça se présente, et là, décider ensemble.
C'est exactement comme ça que ça se passe.
Docteur Antonin Mathieu, réaction ou aller vers quelque chose, c'était quoi? Parce que vous n'aviez pas exercé, justement, à part, bien sûr, lors des années de formation.
Et puis, en quelques années en remplacement aussi. Et puis, c'était aussi une forme de constat. Les consultations sont remboursées. Par contre, ce qui fait que les gens tombent malades, donc les déterminants de santé, le travail, les conditions de vie, c'est quelque chose qui n'était absolument pas abordé. Et moi, plutôt que de me plaindre, j'ai tendance à le faire souvent, là, c'était l'occasion de créer quelque chose de nouveau. C'est d'essayer d'inventer quelque chose qui permet de donner une cohérence à notre métier. Et donc, ça permet d'aventurer extrêmement positif, extrêmement stimulant. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose qui n'existait pas avant, qui nous permet de la coordination et surtout une cohérence, en fait. Une cohérence par rapport au parcours, par rapport à ce qui a rendu la personne malade, par rapport aux soins, en fait, par rapport à tout ce qui fait sa santé. Puis au quotidien, c'est quand même très, très, très agréable de travailler avec mes collègues.
Et en innovant aussi, vous m'avez parlé, quand on a préparé cette émission, des consultations déambulées. Moi, je suis peut-être ignare, mais j'en avais jamais entendu parler. J'avais entendu parler des femmes qui se préparent à l'accouchement en marchant, ça oui, pour faciliter le travail. Mais consultations déambulées, jamais. Docteur Antonin Mathieu, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit précisément?
En fait, le cadre influence énormément sur ce qui se dit. Le cabinet d'un médecin, c'est quelque chose qui est très normatif. Souvent, les patients préparent quelque chose à dire, ils s'imaginent ce que le médecin veut entendre, et nous, on est là à écouter ça. Chez certains patients, particulièrement quand il y a des problématiques psychologiques, le fait de s'émanciper de ce cadre, ça permet d'ouvrir une autre forme de sensibilité, de casser justement ces codes sociaux et d'aller sur d'autres terrains. En réalité, c'est pas quelque chose que l'on propose à tous nos patients, pas sur une première consultation, par exemple. Mais quand on a une situation qui stagne, des douleurs qui persistent malgré les traitements, ou on a l'impression que quelque chose n'arrive pas à se dire, on peut aller se promener dans le quartier. C'est une possibilité qui existe. Voilà.
Estelle Grégoire, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux au fur et à mesure que j'écrivais cette émission, c'est que tous les défauts qu'on attribue aujourd'hui à l'hôpital, eh ben dans votre maison de santé, on dirait que c'est une sorte de miroir inversé de toutes les qualités qu'on recherche aujourd'hui en allant à l'hôpital. Bien sûr, pas avec le niveau de technicité, hein, on peut pas non plus avoir tout, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'hôpital a à apprendre des maisons de santé ?
Oui, je pense. Je pense parce que c'est des endroits où on travaille en pluriprofessionnalité, c'est des endroits où on a plus de temps, c'est des endroits qui sont plus accessibles, qui sont très proches du patient. Et oui, je pense que c'est l'avenir de la santé.
Une forme de paradoxe, docteur Antonin Mathieu, parce qu'on a l'impression que c'est un luxe que vous offrez. Un luxe de temps, un luxe d'écoute, un luxe de disponibilité. Quand on parle de ça, systématiquement, on entend « ça coûte cher » et vous, en petite structure, avec un financement personnel et public, vous arrivez à monter tout ça. Comment vous faites ?
Déjà, on n'est pas sûr de notre stabilité financière sur du long terme. On fait beaucoup d'activités bénévoles, pas mal de consultations gratuites. Donc, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a les financements des maisons de santé. C'est-à-dire que c'est ça qui nous a permis en partie d'ouvrir, même si on investit personnellement, et puis on aura les réunions de coordination. En réalité, nous, on va un peu plus loin. Et ça, c'est pas directement financé. C'est pour ça que ça nous inquiète pas sur la reproductibilité. Là, nous, on est un peu des soignants militants avec une vision de la santé. En l'état, ce serait reproductible par d'autres soignants militants, mais peut-être pas par tout le monde.
Et pas forcément des structures plus importantes. Il y a cet avenir financier donc qui va se jouer dans les prochains mois, les prochaines années. Il y a une courte expérience, hein, seulement quelques mois d'ouverture pour votre structure. Est-ce que ça vous a déjà poussé à réviser certaines de vos croyances, des choses que vous aviez mis dans le projet, et puis finalement, sur le tas, comme on dit, faut rééquilibrer les choses. On va faire là encore un tour de table, docteur Antonin Mathieu.
Oui, on avait par exemple imaginé d'emblée des groupes de santé de la femme en lien avec la contraception. Puis en réalité, ce sont des choses qu'on a mis au second plan parce qu'on a rencontré là un groupe de migrants qui avaient des difficultés d'accès à la santé. Donc on s'est plutôt axé sur ça au tout début. Puis il est probable que s'il y a d'autres problématiques qui arrivent, eh ben on essaiera de partir vraiment des problématiques des personnes plutôt que des choses qu'on a planifiées. Ça sous-entend que nous, on annule pas mal de choses qu'on avait prévues, mais peut-être pour gagner en cohérence par rapport aux besoins. Donc ça va le faire.
Au-delà de ces ateliers, Estelle Grégoire, des projets que vous aviez au départ imaginés, puis finalement les choses changent en étant dans la pratique.
Je pense que oui, on s'adapte déjà aux attentes. Après, là, c'est le tout début, donc c'est un peu difficile de dire pour l'instant.
Et vous, Géraldine Barbier-Lescure, des choses que vous avez imaginées finalement qui se passent mieux ou moins bien, hein, pas forcément dans le négatif.
Dans l'absolu, qui se passe mieux. On est dans une bonne dynamique. Disons qu'effectivement, en tout cas, on essaie toujours dans nos discussions d'aboutir à quelque chose de positif et pas forcément renoncer à certains projets, mais peut-être prendre le temps de les construire et de voir un petit peu comment ça évolue. C'est un peu comme un nouveau jouet, si je peux me permettre de parler comme ça. Très impatient, on avait envie de faire plein de choses et puis on se rend compte aussi que ces choses-là, sans forcément avoir un manque financier, mais il y a des choses qui doivent prendre le temps de se construire.
Tout n'est pas dans l'immédiat et justement pour le futur docteur Antonin Mathieu, est-ce qu'il y a d'autres spécialités ou d'autres praticiens qui pourraient vous rejoindre ? Ce serait quoi finalement ? Mais de toute façon, les murs, on peut pas les élargir non plus. Mais ce serait quoi aujourd'hui, là, s'il fallait dire une ou deux spécialités ou un ou deux métiers qui manquent vraiment dans votre maison, c'est quoi ?
Nous, notre définition de la santé, c'est le bio-psycho social. Et donc évidemment, on a la recherche de psy, que ce soit des psychiatres ou des psychologues. C'est des professionnels qui sont pas si faciles que ça à recruter. Il nous reste quelques temps de bureau, l'équivalent de 2 jours par semaine approximativement. Donc on essaye de
même
de
pour donc avoir un spécialiste qui viendrait de façon plus limitée dans les locaux, pas à temps plein, mais pour justement aborder cette dynamique de santé mentale dans le quartier.
On est tous à temps partiel. Ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir un temps de coordination entre nous. Il n'est pas question que ce soit un professionnel qui aille faire ses heures et qui s'en aille juste après. C'est vraiment pas l'esprit de la structure.
Qu'il rentre dans votre projet.
Ouais.
Pleinement. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation pour venir nous présenter ce projet, ce rêve devenu réalité. spécialité, la nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle de Ménilmontant. Merci à tous les trois, Géraldine Barbier-Lescure. Je rappelle que vous êtes pédicure podologue, enseignante à l'Institut National de Podologie. Merci à vous Estelle Grégoire, infirmière, et à vous docteur Antonin Mathieu, médecin généraliste. Alimentation et santé, on en parle tout de suite dans Priorité Santé avec vous. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. On va parler aujourd'hui de l'huile de palme, hein, polémique autour de cette fameuse huile. Alors, est-ce que c'est justifié? Pourquoi on en parle autant et pourquoi un tel débat, Stéphane?
Alors d'abord, il faut rappeler que l'huile de palme est produite à partir du palmier à huile qui est principalement cultivé en Asie et en Afrique. Et sa mauvaise réputation, on va dire, elle est double. La première, elle est auprès des médecins, des nutritionnistes, parce que c'est une huile qui a des acides gras très saturés par rapport à d'autres huiles et du coup qui, consommée en excès, il faut bien rappeler ça, c'est en excès, peut avoir des conséquences sur la santé. Et le deuxième point qui émerge depuis plusieurs années maintenant, c'est la question climatique environnementale, puisqu'on sait que dans beaucoup de pays, notamment asiatiques, il y a eu des déforestations massives pour produire de l'huile de palme qui lui vaut cette mauvaise réputation, j'allais dire, indirecte par rapport à la question environnementale.
Alors justement, mauvaise réputation, Stéphane, est-ce que c'est justifié?
Alors, moi j'aime bien modérer les choses souvent, donc je dirais un peu une réponse de Normand, oui et non. Et il faut vraiment, vraiment prendre en compte que les choses sont plus complexes que ça. Parce que si on prend effectivement les plantations massives de Malaisie ou d'Indonésie, oui, il y a un vrai problème parce que ça impacte l'environnement fortement. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que l'huile de palme, c'est aussi des petits producteurs qui ont une culture vivrière pour nourrir leur famille et tout ça. Et que je prends cet exemple, le petit producteur ivoirien qui produit un petit peu son huile pour sa famille et pour vendre, etc. Lui, il n'est pas responsable d'une déforestation massive et il ne faut pas le stigmatiser trop. Donc il faut rester raisonné avec cette question.
Alors, il y a l'explication de l'environnement, cet argument environnemental. Il y a aussi l'argument santé. Est-ce que là aussi, parfois, on s'emballe un petit peu?
Alors, c'est pas qu'on s'emballe, c'est qu'on oublie de différencier deux choses, surtout quand on n'a pas été en Afrique ou en Asie et qu'on n'a pas vu l'huile de palme rouge. Parce qu'en fait, il y a deux choses dans l'huile de palme. Il y a la première qui est l'huile de palme rouge, qui, elle, n'est pas raffinée et qui va présenter, du coup, en plus, elle a effectivement ses acides gras saturés, mais à côté de ça, elle va être un apport très riche en vitamine A ou en d'autres produits. Et du coup, celle-là, si elle n'est pas consommée en excès, elle va plutôt être, j'allais dire, positive. Elle contient aussi de la vitamine E, des antiradicalaires, donc elle est plutôt intéressante. Et par contre, l'autre côté, c'est l'huile de palme blanchie qui va être transformée industriellement, qui elle va perdre tous ses composés, ne va garder à peu près que justement son côté un peu négatif avec les acides gras saturés, et qui elle, consommée en excès, n'aura que les côtés négatifs. Donc il faut bien arriver à peser les deux et à se rendre compte que du coup, l'huile de palme rouge modérément a quand même des avantages et que l'huile de palme raffinée, effectivement, il faut limiter sa consommation parce qu'il lui reste que les acides gras saturés.
Alors, en conclusion, pour nos auditeurs, des conseils pour s'y retrouver un petit peu dans tout ça?
Déjà, pour commencer, si on parle d'huile de palme, il faut la consommer de manière modérée. Il faut plutôt aller vers l'huile rouge non raffinée que vers l'huile raffinée. Et ensuite, il faut tenir compte du contexte, parce que si on est dans un contexte où, du coup, l'alimentation est très différenciée, il y a beaucoup de choses, une grosse diversité, il y aura moins de risques de carence, donc là, il faut aller tout de suite vers les meilleures huiles. Mais maintenant, si on est dans un contexte, certains pays d'Afrique ou d'Asie, où par exemple la vitamine A, la carence en vitamine A est très prévalente et un gros souci de santé publique, et ben là, l'huile de palme rouge consommée modérément va, un, pas avoir de conséquences cardiovasculaires, et de deux, apporter la vitamine nécessaire pour beaucoup d'enfants, puisque une cuillère à café, c'est presque la dose journalière. Donc là, on aura un intérêt santé. Donc là aussi, il faut rester raisonné et pas juste avoir un discours anti-huile de palme et regarder la situation et sa complexité.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout, Samaki Ophélie Lassène et Didier Bleu. Demain, nous parlerons des soins de support pour essayer d'évaluer les bénéfices de ces thérapies complémentaires. Vos questions, bien sûr, le numéro de téléphone de l'émission, c'est le 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.